BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi. On file tout de suite sur le marché. Retrouvez Mickaël Jacobi qui nous attend chez Oddo BHF. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Bon, j'imagine qu'on a le moral.
Ah, écoutez, les rebonds sont toujours bons à prendre. On a surtout un rebond qui était à plutôt 1%, bon, qui s'est amenuisé un petit peu depuis. On est à plus 0,60 sur le marché Euronext, avec un volume qui est plutôt nourri, et ça fait suite à deux séances plutôt de prise de bénéfices. Le contexte reste toujours fragile, hein. On a toujours les inquiétudes sur l'économie et les taux d'intérêt. En revanche, aujourd'hui, on essaye de voir le verre à moitié plein, et c'est plutôt bien.
Bon, deux valeurs que vous aviez envie de mettre en lumière ce matin. D'abord, Téléperformance.
Tout à fait. Alors, l'histoire de Téléperformance et le gadin qu'elle a pris exactement il y a une semaine après l'annonce de soupçons sur les infractions sur les conditions de travail en Colombie, donc il l'avait fait chuter de près de 38%, donc depuis a repris quelques 40%. On est loin des niveaux initiaux, hein. On était à 260, là on est à peine au-dessus des 224 aujourd'hui. Néanmoins, elle continue à augmenter plutôt dans le vert, et on est à plus de 4%, 225 € effectivement, après son annonce de retrait de ses activités de modération de contenu offensant sur les plateformes en ligne. Alors ça fait suite effectivement à ce qu'on entendait en Colombie, où les conditions de travail étaient effectivement particulièrement compliquées sur ce genre de contenu, et le marché aujourd'hui l'accueille avec plutôt bienveillance. On attendra néanmoins les investigations poussées et la communication qu'il y aura avec la société et les institutions gouvernementales Colombie, qui devront se faire courant fin du mois de novembre.
Voilà donc pour le dossier Téléperf. Et puis SPIC, vous aviez envie d'évoquer également.
Tout à fait. Alors, SPI s'apprécie aujourd'hui aussi de plus de 2%. On est à 23,24 €. Et là, il s'agit tout simplement de fêter l'obtention d'un nouveau contrat en Autriche qui modernisera l'éclairage et contribue à réduire les coûts énergétiques des transports publics à Vienne. Et effectivement, c'est un joli contrat obtenu par SPI, qui est accueilli avec pas mal d'achats sur le titre aujourd'hui, clairement dans le vert.
Merci beaucoup Mickaël. Mickaël Jacobi donc depuis Oddo BHF ce matin avec nous, ce marché parisien qui pour le moment progresse de 0,64%, 6617 points. Et nous tout de suite on retrouve Thomas Schnell pour l'Info Éco.
BFM Business, l'Info Éco.
Bonjour Cédric, bonjour à tous. L'aide ciblée pour les carburants qui prendra le relais des 10 centimes de ristourne à la pompe sera bien une aide ciblée pour les travailleurs les plus modestes. Un ménage sur deux devrait en bénéficier versement à partir de janvier prochain, déclare Elisabeth Borne dans Les Échos. Conséquence des hausses des prix des carburants, Total Energy va bien payer l'impôt sur les sociétés en France l'an prochain. Ce n'était pas arrivé depuis 4 ans. Le PDG Patrick Pouyanné le confirme parce que cette année, les raffineries françaises sont devenues rentables. Total payera aussi la contribution européenne sur les super-profits. Le risque d'une récession en Europe se précise, prévient ce matin Christine Lagarde. La présidente de la BCE prévoit d'augmenter à nouveau ses taux directeurs. Tous les secteurs d'activité recrutent en France, c'est ce qui ressort du baromètre Adecco, publié par le quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Selon le groupe d'intérim franco-suisse, au troisième trimestre, 3,5 millions d'offres d'emploi ont été déposées par les entreprises. Un chiffre en hausse de 32% par rapport à l'année dernière. Un secteur en particulier recrute, le bâtiment. Journée spéciale sur BFM Business à l'occasion des 24 heures du bâtiment, ne manquez pas à midi. L'interview de Mathieu Burin, fondateur de la start-up d'architecture et de rénovation EMEA. L'Europe se dote d'une constellation satellitaire de communication. L'idée était dans l'air depuis plusieurs mois, mais la guerre en Ukraine a précipité son lancement. Parlement, Conseil et Commission ont donné leur feu vert à cette troisième infrastructure spatiale après Copernicus pour l'observation et Galileo pour la navigation. Et puis ce nouvel épisode de la fronde anti-Elon Musk. Après avoir licencié la moitié des effectifs, maintenant des centaines d'employés démissionnent de Twitter pour protester contre le management du patron de Tesla, faisant ralentir le fonctionnement de l'infrastructure et alimenter les rumeurs d'une possible fermeture du réseau social. 11h07 sur BFM Business, la suite de BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Merci Thomas Schnell. Tout de suite, regard croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, Regard Croisé.
Regard Croisé qui accueille ce matin Céline Picmal-Prat. Bonjour Céline.
Bonjour Cédric.
Picmal Houghton Investment et Daniel Gérino. Bonjour Daniel.
Bonjour Cédric.
Pour Carlton Sélection, qu'est-ce que vous pensez des marchés, de ce rebond notamment?
C'est Noël.
C'est Noël avant l'heure.
C'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. Effectivement.
On n'est pas le 24 décembre, pourtant.
C'est Noël et malheureusement, nous avons un peu passé l'âge, je ne crois plus au Père Noël. Ah. Voilà. Donc effectivement, le sentiment que j'ai...
Vous n'aurez pas de cadeau.
Je n'aurai pas de cadeau. Mais je trouve que c'est effectivement un petit peu tôt. Et le sentiment que j'ai, c'est que malheureusement pour nous tous aujourd'hui, le thermomètre qu'on doit regarder pour les marchés financiers, pour les marchés actions, c'est la liquidité d'un côté, les bénéfices d'entreprise de l'autre. Et depuis quelques semaines, c'est un peu comme si on avait changé le thermomètre. On regarde deux autres indicateurs en disant bah, « tout va bien ». On regarde la croissance économique en Europe et aux États-Unis et on dit bah, « finalement, bah, le coup de frein, il a été moins important que prévu, donc tout va bien ». Notamment parce que, comme on le voyait tout à l'heure, l'économie, enfin l'emploi se porte bien, donc ça va. Et deuxième chose, on dit bah, finalement, l'inflation est passée de 8,2 à 7,7% aux États-Unis, donc tout va bien. Donc c'est un petit peu comme si j'avais mon mari qui était allé chez le médecin, il avait mal au bras, il revient, il me dit ce soir c'est champagne, c'est bon, les jambes fonctionnent. Je dis, est-ce que c'est vraiment la conclusion qu'on aurait dû avoir? Et donc je me dis, il faut quand même revenir à la raison, malheureusement pour nous. Les deux indicateurs qu'on doit regarder, c'est le resserrement monétaire, donc la liquidité. Et aujourd'hui, on voyait Madame Lagarde nous dire ça va continuer à serrer. La Fed va continuer à serrer en décembre. On est toujours dans une phase de resserrement monétaire. Mmh. Le pivot, il aura lieu, mais il aura lieu quand l'emploi va pivoter. Et l'emploi aujourd'hui n'est pas malheureusement pour nous, enfin heureusement pour l'économie, mais malheureusement pour les taux, n'est pas en train de pivoter. On a encore deux Américains qui cherchent, enfin qui deux offres d'emploi pour une personne qui cherche un emploi aux États-Unis. Donc on a toujours une pression sur les salaires qui est de 5% en annualisé aux États-Unis. Donc on a toujours une pression sur l'emploi. Donc pas de pivot de ce côté-là. Et de l'autre côté, sur les bénéfices d'entreprise, pour l'instant, on reste dans un environnement compliqué parce que malheureusement, on sait que quand on a un ralentissement économique derrière, on a une pression sur les bénéfices. Donc on va rentrer dans une période plus compliquée pour les bénéfices d'entreprise en 2023. Et c'est ça qui joue pour les marchés.
Daniel, votre vision de ces marchés-là, effectivement, qui poussent.
Alors, je suis assez d'accord avec Céline, mais il faut qu'elle fasse attention à son mari quand même, parce que sinon, l'exemple fonctionne. Le phénomène récent que l'on a eu avec la baisse de l'inflation, c'est l'hirondelle qui ne fait pas le printemps, malheureusement. Et je pense que les marchés ont un petit peu suracheté cette nouvelle. D'ailleurs, on voit les messages qui sont délivrés par les différents membres du board de la Fed. Ils sont tous un petit peu en contradiction. Certains disent il faut aller plus vite, plus fort. D'autres disent au contraire, il faut faire très attention, il ne faudrait pas que la Federal Reserve nous amène dans le mur. Et on a quand même le sentiment aujourd'hui que la politique monétaire américaine va se faire de façon assez pragmatique, c'est-à-dire qu'ils vont voir pas à pas les statistiques et puis agir en conséquence. L'équation, elle est compliquée. Christine Lagarde, elle sait très bien qu'elle va devoir suivre aussi, mais d'une ampleur sans doute plus faible. Mais moi, je pense que le target qu'on va avoir sur les taux courts américains, ça va être du 5,5, 3,5 pour l'Europe. Donc, vous voyez, il y a encore du chemin à faire. C'est pas terminé. Après, les résultats des entreprises, il va falloir faire quand même très attention, parce que je vois certains analystes qui disent bah, pour 2023, on aurait peut-être 0 aux États-Unis de croissance de bénéfices, moins 8 pour les plus extrémistes en Europe. Là, on voit que quand on retire le secteur de l'énergie des résultats des entreprises, il ne reste plus grand-chose. Hein. On passe de plus 4 aux États-Unis à moins 3. Vous voyez que ouais. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et on est quand même dans un panorama macroéconomique que je trouve complexe. Parce qu'on va avoir, on a beaucoup de dettes. Et ces dettes-là, avec des politiques de hausse de taux, il faudrait qu'elles soient soutenables.
On va essayer justement de faire ce panorama ensemble. Commençons peut-être par les États-Unis, parce qu'il y a eu quand même ces midterms qui nous ont un petit peu, divisé le Congrès, mais il n'y a pas eu de vague républicaine. Quel est votre sentiment sur l'état de santé de l'économie américaine, sur la Fed dont vous avez déjà parlé, mais la Fed qui va recevoir aussi un soutien d'un Congrès qui va moins injecter d'essence dans de carburant dans le moteur, puisqu'a priori budgétairement ça va devenir un petit peu différent de la période précédente.
Mais effectivement, on risque de rentrer dans une période un peu plus compliquée avec des blocages, un peu comme ce qu'on vit chez nous, ici en France, et une marge de manœuvre beaucoup plus faible pour le président américain. Donc ça risque d'être plus difficile pour injecter de l'argent dans l'économie, et ça va rendre la probabilité d'une entrée en récession plus forte. Mais de toute façon,
donc
si on enlève...
Ça fait le boulot de la Fed, quoi.
Même si on enlevait de toute façon les mid-term et l'effet politique, ce qui est très important, c'est que le 9 novembre, on a eu une inversion de la courbe des taux aux États-Unis. Et c'est ça, à mon sens, qui va être clé pour les États-Unis au cours des prochains mois et au cours de l'année 2023. Parce que, historiquement, quand on a une inversion de la courbe des taux, ça veut dire que les taux courts, les taux 3 mois, sont plus élevés que les taux 10 ans. Ça s'est passé le 9 novembre. Quand on a une inversion, ça veut dire que 3 à 9 mois plus tard, on rentre en récession aux États-Unis. La dernière fois que ça a eu lieu, c'était avant le Covid en 2019, et la dernière fois, c'était en 2007. Donc ça, c'est un indicateur pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui, qui est clé. Beaucoup plus que les hirondelles dont on parlait tout à l'heure, une inversion de courbe des taux, c'est quelque chose auquel il faut être très attentif.
Mais parce que ça se produit à chaque fois, ou c'est comme...
C'est 100% des gagnants du loto ont tenté leur chance. Donc là, c'est ça. Donc on est sûr que quand on a une inversion de courbe des taux, derrière, on ne connaît pas la date, mais on sait qu'il y a une entrée en récession. D'accord. Et quand on rentre en récession, ça veut dire que derrière, on a des profits d'entreprises qui sont sous pression. Et effectivement, quand je regarde les analystes, ils attendent encore aux États-Unis, je crois, c'est 5% de croissance des bénéfices attendus pour 2023. Ça me semble élevé compte tenu de cette inversion de la courbe des taux. Voilà.
Alors, ces États-Unis, alors, c'est plus intéressant de regarder le 9 novembre ou les mid-term ?
Alors, c'est bien avant le 9 novembre, parce qu'on regarde souvent, alors sur le 3 mois, oui, effectivement, mais on regarde souvent le 2 ans, 10 ans, qui est un bon driver. Le 2 ans, 10 ans, ça fait presque 7-8 mois qu'il est en situation inversée.
Ces courbes-là sont plus intéressantes
alors, je peux vous dire que ça marche, parce que moi, j'ai fait tous les graphiques, vous voyez, mais très clairement, que 6 fois sur 6, ça a fonctionné. Quelques semaines après, en général, on rentre en récession. Donc là, on ne sait pas si on est vraiment en récession, parce qu'au troisième trimestre, il y a eu un plus 2,1 de croissance sur 4 trimestres. Les deux premiers trimestres étaient négatifs. Troisième est positif faiblement. L'Europe, c'est très très faible. La Chine, c'est très très faible. Enfin, ils ont eu un troisième trimestre très bien, mais globalement, le monde est en train de ralentir. Et moi, je pense que la croissance économique en Europe va très fortement ralentir en fin d'année, début d'année prochaine. L'Allemagne est déjà en récession et les États-Unis vont être sur une croissance très très molle, de l'ordre de 1% l'année prochaine. On a des croissances potentielles qui sont assez basses maintenant. On a des croissances potentielles très très basses. On avait des niveaux de croissance potentielle de 4,6 en 2000, de 3,1 en 2010 et maintenant on est à 2,2. C'était divisé par deux. Donc on voit que le monde ralentit, la productivité ralentit, la population vieillit. Tout ça, ça coûte. On a des déficits colossaux. C'est quand même pas un panorama très réjouissant. Et puis, la Chine, qui était le moteur de la croissance mondiale, hein, c'était pratiquement un tiers du PIB, enfin pas tout à fait, elle est clairement en situation compliquée. Donc on voit que les États-Unis, aujourd'hui, sont confrontés à un ralentissement économique qui est sur le point de se poursuivre, enfin qui est sur le point de s'accélérer, pardon, avec un emploi qui est très très fort, ce qui perturbe un peu la lecture du panorama macroéconomique. Et en Europe, on a aussi un emploi qui est assez, un marché de l'emploi qui est très dynamique. On a beaucoup de dettes aussi, mais on n'est pas monnaie banque centrale du monde, donc c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Et on a une inflation qui galope beaucoup plus vite les États-Unis, avec une inflation core qui était, donc c'est en dehors de l'énergie et de l'alimentaire, qui était plutôt raisonnable. On voit aujourd'hui que l'inflation core aux États-Unis, elle baisse. Ils ont quand même une hausse du coût unitaire du travail à plus 6 hein, à 4 trimestres. Et en Europe, on est à 4,5. Donc on voit que le coût salarial monte,
la dynamique,
l'inflation monte, l'inflation core, et cette dynamique de l'inflation est en train de se mettre en place. Et il faut faire très attention aux anticipations d'inflation des ménages américains. Si elle change, là, la Federal Reserve sera obligée de donner un coup d'accélérateur sur la hausse de taux. Normalement, ils devraient aller sur leur cible de 5, mais avec des pas plus faibles, plus longtemps et en quantité plus importante.
Voilà donc.
Pour les actions, ça veut dire quand même que c'est un marché un peu compliqué. Juste pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la cherté du marché, un tiers du stock 600 est sur des niveaux de surachat au plus haut depuis 2017. Ce qu'on n'a jamais vu. C'est un ratio qui est un des plus élevés. C'est pour ça que le marché a corrigé deux fois d'affilée. On est suracheté.
Voilà donc pour les États-Unis. Il y a aussi un autre élément qui marque beaucoup les investisseurs, c'est la perspective d'une relance en Chine. Vous y croyez ?
Alors, la perspective d'une relance en Chine.
On a commencé timidement par l'immobilier, du sanitaire.
Je n'ai pas parlé à Xi Jinping récemment, donc je n'ai pas plus d'informations que vous, malheureusement pour nous tous. Par contre, ce qui me semble intéressant au niveau du marché chinois, c'est que contrairement au brouillard épais dans lequel nous sommes en Europe et aux États-Unis, compte tenu des incertitudes sur l'inflation, la progression des bénéfices, les niveaux de valorisation dont on parlait tout à l'heure qui sont très élevés, le niveau de détention qui est très élevé, parce que Daniel le disait tout à l'heure, mais ce qui s'est passé cette année, c'est fascinant, c'est que pour la première fois depuis 1900, on a eu la baisse du marché obligataire en même temps que la baisse du marché actions. Et du coup, normalement, quand on a une baisse sur les marchés actions, il y a un réflexe un peu pavlovien, c'est-à-dire qu'on se réfugie sur l'obligataire. Et cette année, ça n'a pas eu lieu. Et donc, du coup, on a eu des flux entrants sur les actions qui sont nettement positifs. Je crois qu'on est à 220 milliards de dollars qui ont été investis sur les marchés actions en net en 2022. C'est du jamais vu quand on a un marché baissier.
D'accord.
Et c'est lié effectivement à ce manque d'alternatives, parce qu'à part le cash, il n'y avait rien à faire cette année. Donc on n'a pas pu se réfugier ailleurs. Et donc du coup, pour revenir à ce marché chinois, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse, sur le marché chinois, on a une défiance des investisseurs. C'est un marché qui est extrêmement peu détenu. On a une marge de sécurité au niveau des valorisations, puisqu'on est à 8 fois les bénéfices quand on prend les bénéfices lissés sur les 10 dernières années. Donc vraiment, on est à un niveau qui est... 3 fois au moins, voire 4 fois inférieur à celui du marché américain. Donc on n'est pas du tout sur le même type de valorisation. On a une liquidité qui, pour le coup, progresse. D'accord. Et ça, c'est important. Parce que l'indicateur qui est important pour un marché, c'est le niveau de liquidité. Et on a une banque centrale chinoise qui a les mains beaucoup plus libres, avec un problème d'inflation qui n'existe pas ou qui est extrêmement léger, donc qui a la capacité de faire rentrer de l'argent dans le marché. Et la troisième chose, c'est qu'on a des attentes au niveau des bénéfices qui ont été revues massivement à la baisse. Alors là, pour le coup, autant sur les États-Unis et l'Europe, ça n'a pas eu lieu, autant la Chine, oui. Et donc, à mon sens, si j'avais un pari à faire sur 2023, j'investirais sur la Chine. Voilà.
La Chine, moi, vous y croyez ou pas ?
Alors, je suis d'accord sur tous les aspects techniques qu'a cité Céline. Le seul problème qui me gêne, c'est l'aspect politique. On a quand même le résultat du 20e congrès du Parti communiste. On n'a plus les mêmes gens. Hein. On a vraiment des gens qui sont orientés sécurité et qui ne sont plus orientés business.
D'accord.
Ça, c'est vraiment un problème. Et puis le problème du Covid, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à le régler, puisque les infrastructures sanitaires ne sont pas du tout au niveau. C'est pour ça qu'il fait des confinements un peu partout. Ça peut poser un problème, plus les problèmes politiques géostratégiques qui sont quand même... C'est pas comme les États-Unis ou l'Europe, où on est vraiment dans des marchés qui sont liés à eux-mêmes. Il y a assez peu de considérations géopolitiques, parce que ce sont des démocraties. Là, c'est une autocratie. Donc, quand le pouvoir décide de bloquer par exemple Jack Ma, pendant 4 mois, il le fait. Enfin, c'est quand même des signes qui ne sont pas bons. Je ne donne pas les bilans des sociétés qui sont cotées au Nasdaq. Alors, avec l'ancien board, peut-être que j'aurais été aussi optimiste. Mm-hmm. Là, ce qui me gêne un peu, tous les éléments que vous avez indiqués sont tout à fait justes et clairs.
Il y a quand même cette hypothèse politique qui...
Mais l'hypothèque politique me gêne un peu.
Allez, voilà pour le panorama qu'on a rapidement fait. Du coup, je vous pose la question qui tue, que j'ai déjà posée à François Monnier et Marc Favard tout à l'heure. Finalement, on perd 7 et quelques pourcents sur le CAC. On était à 7002 au moment de la césure annuelle. On vient de reprendre quasiment 1000 points depuis le plus bas. Ça veut dire qu'il nous reste exactement le même temps, un mois et demi jusqu'à la fin de l'année. On peut continuer comme ça et reprendre 1000 points qui nous ramèneraient un peu au-dessus d'ailleurs des niveaux du début de l'année. On peut combler, on peut terminer dans le vert sur le CAC.
Tout est possible. Tout est possible. Là, maintenant, on est dans une
zone... Mais vous croyez toujours pas au Père Noël?
Non, mais on arrive sur la... Pour le coup, comme on arrive sur Noël, on sait qu'il y aura plus d'annonces de résultats. On va avoir un environnement... Enfin, il n'y aura pas beaucoup de nouvelles. Donc, ça, si le marché a envie... Si l'investisseur a envie de continuer à investir, ils peuvent continuer à le faire. Donc, il est possible qu'on n'ait pas d'inversion d'ici le mois de janvier. D'accord. Donc, sur un horizon de temps aussi court, c'est très difficile d'avoir une prévision stable. Et en général, on a des rallyes de fin d'année sur le mois de décembre. Donc, c'est possible. Voilà.
Après, alors, possible ou pas possible ?
Moi, j'y crois pas du tout.
Vous n'y croyez
pas ? Parce que je trouve qu'un marché qui a moins 8 en Europe... Alors, si on regarde le CAC 40, c'est des banques et du secteur du luxe. Donc c'est pratiquement tout le business se fait en dehors de la France. Donc c'est pas vraiment révélateur de la réalité. Je pense qu'avec une Europe qui est quand même pas très en forme, qui est beaucoup moins réactive que les États-Unis, moi je suis beaucoup plus confortable sur les États-Unis que sur l'Europe. J'aurais plutôt tendance à shorter l'Europe et acheter les États-Unis. Et il y a quand même des valeurs qui, même sur le Nasdaq, ont été massacrées, qui ont repris des couleurs. Les perspectives me semblent meilleures aux États-Unis. On est en avance dans le cycle. L'Europe est sur son terrain, la guerre, les choses ne sont pas du tout réglées, et les problèmes d'énergie, on se les prend en pleine figure. Nous, on a une énergie qui nous coûte une fortune, même si le prix a baissé, a été divisé par 3 pratiquement depuis fin août sur le gaz naturel, mais globalement, ça nous coûte. On est moins compétitifs que les Américains. Et les Américains, eux, dominent aujourd'hui, dans la période de guerre, c'est eux qui donnent le « là ». Et je pense que les entreprises américaines, aujourd'hui, sont en plein redéploiement. On voit, elles sont en train de licencier, de revoir leur business model. Donc je suis plus confiant, moi, dans les États-Unis. Et je suis plus confiant aussi dans la politique monétaire américaine qui ira sans doute plus vite que la politique monétaire européenne. Nous, on est toujours au tiède.
Deuxième question, ou deuxième réaction, Paris devant Londres en termes de capi, etc. Bon, d'accord. Essentiellement d'ailleurs parce que Londres a freiné plus que parce que Paris a progressé. Qu'est-ce que ça vous inspire
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Ouais. Hein,
pour une fois que c'est quelque chose de positif. Après, je suis pas sûre que ça soit révélateur de quelque chose de plus profond. Mais ce qui est intéressant, à mon sens, c'est ce que Daniel disait tout à l'heure, c'est que la Bourse de Paris, elle est faite d'un ensemble d'entreprises qui sont... Donc, on a une surreprésentation. On avait une sous-représentation à la Bourse de Paris de la technologie, puisque effectivement, c'est pas quelque chose sur lequel on est fort. Et par contre, on a des sociétés comme Total qui sont cotées en France. Et ça, c'est un leader mondial dans le secteur de l'énergie. Donc, on a des leaders mondiaux qui ont su émerger en France, qui sont cotés à la Bourse de Paris. Et ça, c'est quand même une force pour notre pays. Et à mon sens, pour rebondir sur ce que disait Daniel tout à l'heure, le combat, il n'est pas tellement entre, finalement, la Chine, peut-être, l'Europe, les États-Unis, quand on investit. C'est un combat entre entreprises. Et c'est peut-être plus ça qui est important pour investir aujourd'hui. C'est qu'on peut avoir, paradoxalement, une bourse globale qui est sous tension, mais des titres qui ont une performance très différente. Parce que on a une dynamique qui est en train de s'enclencher aujourd'hui, qui peut être très intéressante, par exemple, pour le secteur de l'énergie, avec le fait qu'on n'ait pas investi dans l'exploration pendant 10 ans et qu'aujourd'hui, on a un manque. On va avoir une dynamique qui va s'enclencher pour des sociétés qui vont profiter du fait qu'on doit investir massivement dans la transition énergétique. Et il y a des sociétés qui vont en profiter. Donc il y a des dynamiques qui sont en train de s'enclencher. Et on est dans un environnement dans lequel finalement, ça va être du ligne à ligne qui va être intéressant. Et ce qui est paradoxal, c'est que cette année, quand on regarde les chiffres, je le disais tout à l'heure, on a eu des investisseurs qui ont investi sur les marchés actions. Et quand ils ont acheté sur les marchés actions, ils ont acheté des trackers. Alors ça, je trouve ça fascinant qu'il y ait eu 460 milliards de dollars investis dans les trackers dans un environnement où aujourd'hui, pour se différencier, il ne fallait surtout pas faire des trackers. Ouais. On le voit, on est dans un environnement où il faut faire du stock picking et il faut aller chercher des sociétés en ligne à ligne. On a eu la sortie de la gestion active pour faire du tracker. Donc si j'avais un conseil à donner aujourd'hui à nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est profiter de ce rebond pour sortir d'un tracker et aller chercher des gérants actifs qui vont chercher des pépites, qu'elles soient à Paris, à Londres ou à New York. Voilà.
Alors pour Paris, on peut que...
Vous me rappeliez fort opportunément quand on discutait hors antenne que c'est Paris nouvelle capitale des capitaux.
Oui.
C'était le thème de la première plénière du premier sommet BFM Patrimoine.
En
2018.
Exactement, et on se posait déjà la question de savoir si Paris
pouvait devenir la première place financière
et supplanter Londres. Et alors, c'est très bien en termes de capitalisation boursière. Après, le petit problème, c'est les infrastructures derrière. C'est-à-dire qu'en fait, Londres est une place de chambre de compensation avec des réseaux informatiques colossaux, juste pour faire peur. Si on voulait remplacer, substituer Londres et mettre Paris à la place, il faudrait travailler pendant 5 ans, jour et nuit, 365 jours par an, pour recréer tous les canaux, toutes les fibres, tous les liens, tous les réseaux qui existent pour faire une place, une chambre de compensation digne de ce nom. Donc, on ne va pas bouder notre plaisir, c'est formidable. Moi, je souhaite que Paris se développe. D'ailleurs, il y a beaucoup de banques qui reviennent du fait du Brexit, merci messieurs les Anglais, pour se réimplanter en France. Ça crée du business, ça crée des emplois, c'est formidable. Il faut que ça continue et qu'on reste sur cette dynamique. Il n'y a aucune raison qu'on soit en dessous de Londres. Mais simplement, c'est un tissu industriel.
Il n'y a pas que la capi qui compte.
Et non.
Merci beaucoup à tous les deux. Céline Picmal-Prat, donc pour Picmal Houghton Investment, et Daniel Gerino pour Carlton Sélection. Bonne fin de semaine sur ce marché qui, pour le moment, ne se dément pas. La hausse s'est un peu émoussée, puis est repartie, plus 0,93%. On va voir dans un instant ce qu'en dit Stéphane Saudutet. Et n'oubliez pas non plus les podcasts et replays qui vous attendent sur le site.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
11h30, on retrouve Stéphane Saudutet qui nous attend chez Technibourse et qui a suivi cette matinée pour nous. Bon, on s'est dit à un moment, tiens, ça va s'émousser. Et puis finalement, maintenant rien n'y fait, on est de nouveau presque à 1% de hausse, Stéphane.
Oui, c'est vrai qu'il s'est passé quand même pas mal de choses durant cette heure écoulée. On a perdu 30 points, en fait. On est passé de 6645 à 6615 à peu près. Et puis, on a repris ces 30 points depuis quelques minutes. Donc, on sent ce marché quand même toujours résilient. On sent également une forte zone de support à l'approche des 6000 points. Donc, ça, c'est assez à noter. Par contre, si on passait en dessous des 6600 points, on pourrait plier de façon un peu significative et peut-être se rapprocher des 6500 points. On sent le marché quand même assez volatile, hein, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Mais pour l'instant, ça tient. Alors, est-ce qu'on aura la force de monter jusqu'à 6007? C'est moins sûr, hein, quand même, aujourd'hui. D'autant qu'on a des grosses résistances psychologiques aux États-Unis, comme je vous le disais tout à l'heure, les 34 000 points sur le Dow Jones, les 12 000 points sur le Nasdaq 100. Ça sera pas simple à déborder sans un catalyseur supplémentaire. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on le voit pas trop venir, à moins que, bien sûr, sur le front géopolitique, ça soit un petit peu mieux dans les prochaines journées, semaines. Je retiendrai aussi de cette semaine quand même la faiblesse des crypto-monnaies, la faiblesse du Bitcoin, malgré la reprise du Nasdaq 100. On sentait ces deux actifs très corrélés ces derniers mois, même cette dernière année. Là, il y a une décorrélation quand même. On voit un Bitcoin sous les 17 000 points, dollars, pardon. Donc, ce qui reste quand même un petit peu inquiétant, je dirais que peut-être qu'on a vécu un sell-off sur le Bitcoin, mais peut-être n'est-il pas terminé. Je me demande s'il n'y a pas moyen de voir le Bitcoin aller chercher les 12 600 points, dollars, pardon, excusez-moi. Attention quand même à cette crypto-monnaie qui est quand même dans une situation de vulnérabilité extrême. Donc, voilà. Je retiendrai aussi quand même le Brent, qui a une semaine quasiment été proche des 100 dollars, et puis finalement, cette barre fatidique des 100 dollars, si on était passé au-dessus, on aurait eu un potentiel de 10-15 dollars, mais on a buté vraiment contre ce niveau. Et là, on redescend à proximité des 90 dollars. Je pense pas qu'il y ait un potentiel de baisse beaucoup plus important sur le Brent. On pourrait peut-être perdre aller 1 ou 2 ou 3 dollars de plus, mais je serais bien enclin à acheter un tout petit peu plus bas pour viser de nouveau un retour vers les 100 dollars dans ces prochaines semaines. Et aussi, on s'intéressera aux matières premières. Il y a vraiment une dichotomie sur les matières premières. Donc le pétrole et le café qui baissent, le sucre, le cuivre et le maïs qui montent, ce qui fait que l'indice CRB reste quand même sur des niveaux relativement élevés, ce qui est pas bon signe, toujours pour cette inflation qui même a baissé un petit peu ces derniers temps, mais pour qu'elle baisse beaucoup plus, hein, pour soulager peut-être davantage les marchés, il faudra quand même une baisse généralisée des matières premières et donc de l'indice CRB, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, je reste toujours dans l'idée qu'on peut avoir quand même sur les marché d'action, un petit coup de moins bien dans les 15 prochains jours, voire 3 prochaines semaines, avant peut-être d'avoir un rallye de fin d'année un petit peu plus intéressant dans les tout derniers jours de 2022.
Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Sauduteil, Technibourse, qui était avec nous ce matin. Le marché parisien progresse de 0,93%, 6637 points.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Il est l'heure de retrouver quelques idées de fonds grâce à Mara Dobrescu. Bonjour Mara.
Bonjour Cédric.
En duplex avec nous depuis Morningstar. On évoque avec vous ce matin les performances de la gestion passive que l'on compare à la gestion active. Gestion passive qui s'en est mieux sortie pour le moment dans nos marchés chahutés de 2022. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. En fait, donc, on a publié récemment notre baromètre actif-passif européen. C'est une étude qu'on met à jour tous les 6 mois et qui mesure la performance des fonds actifs domiciliés en Europe par rapport à leurs homologues passifs dans leur catégorie Morningstar respective. Et c'est un rapport qui couvre près de 30 000 fonds actifs et passifs, environ 3/4 du marché européen total des fonds. Alors, donc, les marchés financiers au premier semestre de cette année ont été clairement confrontés à une myriade de difficultés, les tensions sur l'énergie, l'inflation, bien évidemment sur fond de guerre Russie-Ukraine. C'est un type d'environnement où on aurait pu s'attendre à ce que les gérants actifs fassent un peu mieux parce qu'ils ont la flexibilité de surpondérer certaines valeurs, sous-pondérer ceux qui baissent le plus, contrairement aux fonds passifs qui, eux, intègrent toute la baisse des valorisations de marché. Alors, pour voir qui s'en est mieux sorti, on a calculé ce taux de réussite des gérants actifs qui est calculé comme le pourcentage des fonds ayant survécu la période, donc n'ayant pas été liquidés ni fusionnés sur la période, et aussi qui ont, deuxième critère, donc surperformé leur concurrent passif le plus proche sur une base nette de frais.
Et qui s'en sort le mieux, du coup ?
Le taux de réussite des gérants actifs sur cette période de 1 an jusqu'à fin juin 2022 clairement n'impressionne pas. Il y a seulement 35% des fonds actifs dans les 43 catégories de fonds actions que nous avons analysées. Seulement 35% de ces fonds actifs ont survécu et surpassé leur homologue passif sur cette période. Et il y a seulement 7 catégories de fonds actions où le taux de réussite des gérants actifs monte à plus de 50% sur cette période de 1 an.
Du coup, ces fonds, on le voit, actifs, ont mieux résisté en cette période. Enfin, si on regarde sur longue période, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Plus on étend la fenêtre d'observation, en fait, plus le taux de réussite chute. Parce qu'il est globalement difficile pour la gestion active de surperformer régulièrement avec des frais qui sont somme toute élevés, sans compter le taux de mortalité qui est élevé quand même parmi les fonds actifs, puisque les sociétés de gestion liquident ou fusionnent souvent les fonds peu performants pour en lancer de nouveaux. Donc, pour vous donner une idée, sur les 10 dernières années, si on a regardé les fonds qui étaient existants sur le marché européen mi-2012, eh bien 54% d'entre eux n'existaient plus 10 années après, c'est-à-dire qu'ils avaient été liquidés ou fusionnés sur la période. Et donc, si on regarde le taux de réussite moyen des gérants actifs sur 10 ans, eh bien, il n'est que de 24% sur les fonds actions et seulement 21% sur les fonds obligataires, où ces derniers sont vraiment pénalisés encore plus par des frais trop élevés.
Bon, est-ce qu'il y a quand même des niches de marché où les gérants actifs ont un rôle à jouer ?
Alors, en règle générale, les taux de réussite des gérants actifs sont un peu plus élevés, par exemple sur les capitalisations petites et moyennes par rapport aux grandes capitalisations, parce qu'il y a davantage d'inefficience de marché potentielle à exploiter. On voit aussi des résultats plutôt corrects sur les fonds axés dividendes, où là, les gérants actifs ont pu surpondérer des secteurs comme la santé, qui ont été gagnants sur les 10 dernières années. Et sur l'obligataire, c'est sur les obligations d'entreprise et sur le high yield que les gérants actifs s'en sortent plutôt correctement. Donc, on a un taux de réussite d'environ 40% sur 10 ans. Alors, tout ça, c'est des chiffres collectifs. Encore faut-il, bien évidemment, trouver un fonds de qualité parmi cette cohorte. Et pour ce faire, c'est toujours un peu les mêmes critères qu'on mentionne et qu'on conseille aux investisseurs. Chercher un gérant expérimenté, une société de gestion sérieuse et bien évidemment des frais bon marché.
Mara Dobrescu et Morningstar qui nous accompagnaient ce matin. Merci Mara. Le marché qui reste pour le moment bien orienté, l'indice CAC dans le vert depuis l'ouverture, quasiment 1% de hausse depuis quelques temps et n'est au plus haut du jour, 6649 points, en progresse d'1,11%.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
François Monnier et Marc Favard sont en plateau pour répondre à toutes vos questions. Vous êtes prêts, messieurs ?
On est prêts.
François Monnier pour la rédaction d'Investir, Marc Favard pour Promépar Asset Management. On commence avec vous, Marc. C'est Yves qui voudrait que vous lui donniez quelques titres du CAC 40. Il voudrait se positionner pour 2023. Que lui suggérez-vous ?
Alors, je vais lui proposer un 2x4.
Un
2x4. Donc, 4 valeurs pour être à peu près tranquille en ce moment. Et 4 valeurs un petit peu pour se projeter. Donc, il peut travailler sur ces valeurs. Donc, ce qu'on cherche au début, c'est des sociétés... Donc,
quasiment 20% du CAC.
Voilà, des sociétés assez résilientes, où le rendement est important. Donc, je mettrais Vinci. Donc, Vinci, c'est... Donc, grosse partie, les infrastructures et la réouverture, mais avec un très bon carnet de commandes et beaucoup de visibilité. Je mettrais la BNP, qui publie des bons résultats avec un bon rendement. Total, avec des prix d'énergie qui restent très hauts. Et je mettrai Airbus, qui a un très joli carnet de commandes qu'il doit bien exécuter. Mais on ne voit pas vraiment de gros soucis à court terme. Et puis après, je m'orienterai vers un portefeuille qui se projette plus sur la croissance et l'espérance que l'année prochaine, nous n'allons pas être dans une grosse récession. Donc toujours pareil sur l'idée du digital, Publicis, qui est un acteur très puissant sur la publicité et qui a fait une belle migration de son modèle économique. Capgemini, qui résiste très très bien, et on a besoin de talents et on a besoin de conseils dans des projets digitaux qui sont de plus en plus importants. Et puis je penserai aussi à cette transformation électrique avec Schneider. Et puis je mettrai Veolia, qui me semble aussi être un beau dossier de durabilité, de besoin dans l'eau, les déchets. La deuxième partie étant un peu plus cyclique, mais je pense qu'avec ça, j'ai 8 valeurs solides, un peu tout terrain, et étant capable de bien réagir, quels que soient les événements, sauf évidemment ralentissement prononcé l'année prochaine, qui serait pas bon pour le pétrole, pas bon pour les taux. Voilà, voilà un petit peu l'idée.
François, est-ce que vous en avez 8 autres, histoire d'avoir fait
quasiment... Je vais essayer de proposer un 3x2. Alors, pourquoi 3x2? Parce qu'on peut se dire qu'on peut séparer et distinguer trois typologies de valeurs. La première thématique, les valeurs de croissance. La deuxième, les valeurs des côtés. Et la troisième, les valeurs de, on va dire, tout terrain, extrêmement solide, où il y a jamais ou très peu de risques sur de révision à la baisse. Les valeurs de croissance, eh bien, on sait, ils ont connu une très mauvaise année, puisqu'on a des baisses de 25 à 30%, voire au-delà. Et donc, j'en repêcherai Microsoft et Sartorius Stedim, qui ont été vraiment pénalisés par cette hausse de taux, alors que la croissance, elle est là. Donc, c'est les deux valeurs que je jouerai pour 2023 sur la thématique croissance. La thématique décote, value, eh bien là, on a deux champions dans le CAC 40, c'est Stellantis et BNP Paribas. Stellantis avec un PER de 2, voire entre 2 et 3, suivant les estimations des analystes. Mm-hmm. Mais donc là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement décoté. Et BNP, là aussi, grosse décote, du rendement. Et pour peu que ça s'améliore un peu en Ukraine, ce sera, je pense, quelque chose qui sera recherché par les investisseurs. Et après, la troisième poche, c'est ce qu'on appelle les valeurs extrêmement solides. Bien sûr, on pense à Air Liquide. Air Liquide, on le sait, dans les années où c'est un peu compliqué, eh bien, vous avez très très peu de risques de révision à la baisse de la croissance bénéficiaire. Et puis Sanofi qui est un peu décoté, mais pour des bonnes raisons. Mais là, on peut penser que ça y est, maintenant on est reparti sur une tendance avec de la croissance. C'est acyclique, donc peu importe si on sort de récession ou pas récession, on n'aura aucun impact sur le cours de bourse et sur le BNPA, le bénéfice net par action. Donc voilà mes 6 valeurs.
Bon, voilà, Yves, ça fait quand même un petit paquet de valeurs à étudier pour faire votre choix. Question que vous envoie Claire, François. Puis-je avoir un avis éclairé sur Ipsos ?
Bah oui, Ipsos, c'est un titre qui marche plutôt bien et qui marche bien dans les périodes un peu troubles, puisqu'on voit bien que les clients, ils ont besoin de mieux connaître leurs consommateurs. Et donc, on a besoin de plus d'enquêtes, on a besoin de surveiller un peu ce qui se passe sur le web. Et donc, bah, Ipsos remplit admirablement ces missions-là, puisqu'on a vu à la fois, que ce soit au troisième trimestre ou sur l'ensemble depuis le début de l'année, sur les 9 mois, on est sur une croissance d'activité de l'ordre de 13%. Et si on retraite à comparable taux de change, on tombe à 6. Donc, une forte croissance, une marge finalement qui va être préservée par rapport à la marge qu'on avait pu voir en 2021. Donc, la hausse des coûts est bien absorbée chez Ipsos. Donc, on va rester sur une marge qui va approcher les 13%. Ils ont dit qu'ils seraient plutôt en haut des objectifs sur l'ensemble de l'année 2022. On est sur un titre qui n'est pas très cher, qui se paye seulement 10 fois. Donc, vous avez de la croissance, une belle marge, et une activité qui se comporte plutôt bien lorsque tout le monde se pose des questions. Ipsos apporte des réponses. Donc on achète, nous, chez Investir.
Vous regardez, vous, Ipsos, ou pas?
Oui, pour Marc. Oui, je trouve que c'est intéressant. Et puis, il faut dire que là aussi, le digital leur a apporté beaucoup de flexibilité, de baisse des coûts, donc pour collecter l'information. Donc, on aime bien ce dossier aussi.
Et en plus, dans le bilan, il n'y a quasiment pas de dette. Hein. La dette nette, c'est 5% des fonds propres. Donc, la hausse des taux, ça n'a aucun impact sur le modèle économique d'Ipsos.
Voilà, clair, ce sentiment sur Ipsos. Charlotte, Marc vous interroge. Quels sont les secteurs qui vous semblent intéressants pour les prochains mois?
Alors, il y a un secteur peut-être qui fait débat, mais je pense qu'effectivement, le secteur de la défense et de l'armement me semble assez structurant dans les portefeuilles. Et puis, on a des acteurs mixtes. Hein. Airbus n'est pas que dans ce secteur, mais on en a déjà parlé, mais je trouve ça intéressant. Mais on peut parler de Dassault Aviation ou Rheinmetall en allemand. Voilà. Donc, ce secteur est intéressant. L'autre secteur, je trouve, c'est le solaire. Alors malheureusement, il se joue plutôt par des acteurs américains. Je crois qu'un jour, on m'avait déjà interrogé. Donc, il y a un tracker TAN, qui est très présent sur la partie solaire, l'électrification forcément, hein, donc et là on a des gros acteurs en Europe. Hier Siemens a publié des très bons résultats, mais on peut parler de Schneider, on peut parler des câbles avec Prysmian et Nexans, voilà. beaucoup de choses où dans les portefeuilles je pense qu'il faut penser à ces thèmes transversaux. La thématique du rendement, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un univers, si les sociétés sont capables d'avoir des gros rendements et de les tenir, c'est le cas dans le secteur pétrolier, c'est le cas dans les banques. Donc, un regard un peu transversal sur le rendement. À terme, l'idée que le secteur automobile, compte tenu de ses prix, sera intéressant, mais c'est quelque chose qu'on va plutôt se projeter dans la première partie de l'année, après avoir plus d'éléments sur l'état de la consommation en France.
François?
Dans les prochains mois, enfin, j'ai envie de dire, là, il y a une saisonnalité. Donc, on rentre dans l'hiver. On a Météo France qui nous annonce qu'on aura un hiver plutôt froid cette année par rapport aux deux ou trois derniers hivers. Donc, bien sûr, le secteur de l'énergie va être regardé à la loupe par les investisseurs, notamment les énergies renouvelables. Donc, je pense que des titres comme Neoen ou Voltalia qui est en train de faire une augmentation de capital, ce sont des titres qui vont être extrêmement surveillés, comme Iberdrola, peut-être en Espagne, comme donc tout ce secteur de l'énergie va être au cœur des préoccupations des investisseurs, pas forcément les pétrolières, encore que là ça va être le gros sujet de cet hiver. D'accord. C'est est-ce que l'Allemagne tient, patron, la France, on sait que ça devrait aller, même si on se pose encore des questions sur nos centrales nucléaires, mais est-ce que l'Allemagne tient? Si l'Allemagne tient, on sait que ça va être très très bon pour l'économie, donc on aura une bonne résistance. Si elle tient pas, ça va se couper. Donc de l'énergie, oui, qui sera au cœur des sujets de préoccupation des investisseurs, des consommateurs, des ménages.
Justin voudrait des nouvelles de la fusion Suez-Veolia.
Ça se passe plutôt bien, Justin. Il n'y a pas de signe alarmant. Au contraire, ils sont même peut-être en avance sur leur programme de synergie. Il faut savoir que Veolia a récupéré 60% des actifs de Suez. Ils avaient prévu sur l'ensemble de l'année 100 millions d'euros de synergie. Et là, à 9 mois, ils sont déjà à 98 millions. Donc, on sait que l'objectif va être battu. Et ils ont un programme d'économie qui est bien engagé également. Et là, on devra avoir aussi des bonnes nouvelles. Donc, tout va bien et on a en plus de la croissance parce que à périmètre comparable, le nouveau Veolia a été capable d'afficher une progression de son activité de l'ordre de 13%. Si on retraite un petit peu les prix de l'énergie qui ont gonflé l'activité, on est toujours sur une croissance quand même de 7%. Donc on a un groupe qui est plutôt dynamique, qui profite de son savoir-faire dans le domaine de la gestion des déchets dangereux. Et puis on observe aussi une bonne activité dans le traitement de l'eau avec le retour du tourisme, notamment en Espagne. Et donc on a un nouveau Veolia qui est en pleine forme.
C'est lui également ?
Oui, on aime beaucoup. Le marché était un peu inquiet de sa dette. Je crois que là, il peut être rassuré par rapport à la publication des résultats. Et je pense qu'on était un peu basique là-dessus. Et puis, on voit qu'il y a des jolis projets hein, dans le traitement du plastique, dans le dessalement, dans la réutilisation de l'eau. Donc, l'environnement de Veolia est extrêmement porteur. Et avec un positionnement mondial et position sur l'industrie qui est de plus en plus importante. Donc, je crois que c'est un beau dossier, moyen long terme, et porté par des tendances fortes.
Voilà donc pour le point d'étape sur cette fusion, Justin. Question d'Agnès. Le titre Alstom a fortement rebondi. Que pouvez-vous lui conseiller, Marc ?
Peut-être de lui faire quelques remarques. Hein. Il avait beaucoup baissé parce qu'on s'inquiétait de choses. Hein. Une acquisition logique mais compliquée de Bombardier, donc qui permet quand même à Alstom d'être présent dans le monde entier sous tout un tas de possibilités de trains assez différents. Donc ça, c'était une bonne idée. Mais ils l'ont payé cher, ils doivent le digérer et c'était compliqué. Donc on a quand même des réassurances sur cette intégration. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Donc ça veut dire que la société ne va certainement pas faire appel au marché, que les agences de notation vont pas les dégrader et que tous les acteurs qui sont des acteurs court terme qui pouvaient sanctionner l'entreprise sont moins vendeurs sur le titre. Donc le premier mouvement de rattrapage, ça a été d'abord que les vendeurs ont racheté leur position, se disant que finalement ce qui pouvait jouer une augmentation de capital, une dégradation de la dette, n'était pas le sujet. Maintenant, c'est un long parcours. Hein. Donc la société, elle doit gérer cette fusion. Elle est aussi impactée par l'inflation. Donc évidemment, quand vous produisez des trains, vous avez besoin d'acier. Donc elle a aussi des contrats qui sont pas tous indexés sur l'inflation. Donc là aussi, la dernière publication qui est tombée il y a quelques jours est plutôt rassurante. Donc ça veut dire que maintenant, les investisseurs long terme qui avaient adoré ce dossier pour la durabilité, pour tout ce que le transport pouvait apporter dans l'équation de la transition énergétique, vont à nouveau s'intéresser plus au dossier parce que les métriques financières et le retournement est en place. Donc, et aussi, je voulais noter que dans la publication, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement, ils vendent des trains, mais ils vendent aussi du service ferroviaire, hein, donc s'assurer que le trafic se passe bien. Et là aussi, c'est plutôt très positif. Donc, il y a certainement de la place, mais c'est un paquebot. Hein, donc, oui. Et c'est un retournement qui prendra du temps. Mais j'ai donc ceux qui étaient très très négatifs ou qui tapaient sur la société vont taper point dessus. Voilà. Donc, ce qui explique le rebond. Donc, place maintenant pour un retournement programmé qui peut se mettre en place.
Quelle lecture vous faites d'Alstom, qui a été d'ailleurs récompensé au BFM Awards hein, cette semaine, Grand Prix de la performance à l'export?
Eh ben, je pense que Alstom devrait prendre à contre-pied le marché et lancer son augmentation de capital maintenant. Parce que c'est vrai qu'on tape moins dessus en se disant voilà, les comptes sont plutôt peut-être un peu meilleurs que prévu et que. Mais je pense que c'est justement le bon moment pour faire l'augmentation de capital parce que Alstom traîne ce sujet de bilan trop fragile. En fait, depuis sa mise en bourse, depuis que Alcatel a voulu se séparer d'Alstom, pour la petite histoire, vous vous souvenez probablement, c'est que Alcatel avait une grande ambition dans les télécoms. Et pour faire cette grande ambition dans les télécoms, ça passait par des gros investissements, des acquisitions. Et donc, ils se sont séparés d'Alstom en logeant dans Alstom toute la dette d'Alcatel. Et donc, depuis ça, Alstom traîne un bilan extrêmement fragile. Ouais. Et c'est maintenant qu'il faut justement craquer ce sujet-là, maintenant que les investisseurs ne regardent plus trop son bilan, pour faire cette augmentation de capital massive, pour se dire qu'on aura un Alstom qui n'aura plus de dette. Parce qu'un Alstom qui n'a plus de dette, avec les projets qui sont monstrueux dans le domaine de la mobilité verte, eh bien, Alstom a tous les moyens et a les ingénieurs pour relever tous ces défis. Ils ont un problème financier et c'est maintenant, j'ai envie de dire, qu'il faut le craquer. Et c'est ce que je souhaite à Alstom pour pouvoir justement. Parce qu'Alstom devrait être.
Il a conseillé le nouveau directeur financier.
François Meunier, offensif. Hein.
probablement qu'ils ne vont pas le faire, mais en tout cas, moi, c'est ce que je leur souhaiterais.
Ce que vous feriez.
Et nous, ce sera un achat fort pour investir, parce que le marché, il est là, ils ont les ingénieurs, mais ils n'ont pas les finances. Et là, les finances, ça se règle. Quand on est en bourse, on est là pour lever aussi de l'argent. Ouais. On n'est pas là que pour racheter des actions. Il y a beaucoup d'acteurs qui font que ça, des rachats d'actions. Mais je pense que quand on a des bonnes idées, on trouve de l'argent.
Voilà donc cette réponse sur le titre Alstom. Allez, il nous reste une petite poignée de minutes pour répondre à Frédéric, qui veut savoir s'il peut tenter un pari sur ArcelorMittal.
Moi, je tenterai pas le pari là. Je préfère prendre le train Alstom que le pari ArcelorMittal. Alors ArcelorMittal, c'est une société qui a eu 5 magnifiques trimestres. 5 trimestres où ils ont dégagé plus de 5 milliards d'excédents bruts d'exploitation. Mais là, ça commence à faire pchit. On l'a vu au troisième trimestre où l'excédent brut d'exploitation est passé de plus de 5 à 2,7 milliards de dollars du fait d'une baisse des volumes et d'une baisse des prix. On a une baisse des prix observée dans l'acier et dans les minerais de fer. Et on pense que l'excédent brut d'exploitation va tomber à un peu plus d'un milliard au quatrième trimestre. Donc on a une dégradation un petit peu de son environnement. Il y a un peu de dette. Donc j'attendrai un petit peu de voir un peu où ça nous emmène cette récession que tout le monde annonce légère, mais ça demande confirmation.
Vous prendriez le pari sur ArcelorMittal ?
Peut-être. Alors, ce qui est particulier dans ce titre, c'est quand la Chine, quand on est positif sur la Chine, on achète du luxe, mais on achète aussi de l'Arcelor. Donc, si on est positif sur une amélioration économique de la Chine, la corrélation financière est peut-être pas évidente, mais la corrélation boursière, elle est forte. Et de noter juste la remarque qui a été faite par le groupe, c'est qu'il y a eu beaucoup de déstockage. Donc, c'est clair que les résultats sont en baisse et que ça reste encore difficile pour le trimestre précédent. Mais n'oublions pas que les cycliques, ça s'achète un peu dans la peur et que c'est peut-être dans les 3-4 mois une occasion de revenir aussi sur Arcelor, sur cette idée-là.
Toutes vos questions trouvent leur réponse grâce à nos spécialistes. N'hésitez pas à nous écrire bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Merci beaucoup à tous les deux. François Monnier pour la rédaction d'Investir et Promépart et Marc Favard répondaient aujourd'hui à toutes vos questions. Dans un instant, 60 minutes business. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Que nous réservez-vous pour cette fin de semaine ?
On va revenir sur l'alerte de RTE, un gestionnaire du réseau de transport d'électricité qui estime aujourd'hui qu'il y a un risque élevé de tension sur le réseau électrique français en janvier. On verra les causes de cette alerte avec Mathieu Pechberti. Dans notre focus, on reviendra sur les conséquences de la chute de l'Empire FTX. La plateforme était pourtant très bien notée, quelques jours seulement avant son effondrement. On en parlera avec Raphaël Bloch. Et puis, ce sont les 24 heures du bâtiment Porte de Versailles à Paris, journée spéciale sur BFM Business. Et nous recevrons EMEA, un acteur, une plateforme de la rénovation pour les particuliers, mais pas seulement. Ce sera notre invité EMEA. Et puis à 12h30, Lorraine Goumeau répondra à toutes vos questions.
À suivre dans une poignée de secondes, donc 60 minutes business. Le marché trust quasiment ses plus hauts du jour, plus 1,31%, 6 662 points. Et nous, on se donne rendez-vous lundi matin à 10h. Très bonne fin de journée, très bon week-end.